Sur le revenu universel de base. Exemple de mesure qui contribuerait à déconnecter le travail de la rémunération et à résoudre les dilemmes décrits dans cet ouvrage. En règle générale, je n'aime pas formuler des recommandations politiques dans mes livres. Mon expérience m'a montré que, quand un auteur dénonce un fait social existant, les critiques lui rétorquent « Alors, qu'est-ce que vous suggérez pour changer ça ?» Après quoi, ils épluchent le texte jusqu'à trouver quelque chose qui s'apparente à une proposition politique et prétendent que c'est là le sujet central du bouquin. Si j'écris qu'une réduction massive du temps de travail ou l'instauration du revenu universel de base ferait sans doute beaucoup pour remédier aux situations exposées ici, cela ne va pas manquer. On va considérer que mon livre traite de la réduction du temps de travail ou du revenu universel de base, et que sa capacité à convaincre est proportionnelle à la faisabilité de ses politiques ou à leur facilité de mise en œuvre. Ce serait mensonger. Mon livre ne porte pas sur une solution spécifique. Il porte sur un problème dont la plupart des gens n'admettent pas l'existence. Il y a une autre raison qui me fait me tenir à l'écart des propositions politiques. Je me méfie de l'idée même de politique. Celle-ci suppose qu'une élite, en général un gouvernement, ait la faculté de décider d'une mesure qu'elle s'arrange ensuite pour imposer à tout le monde. Quand nous évoquons ces questions, nous recourons souvent à un petit artifice mental. Par exemple, nous disons « Qu'allons-nous faire concernant le problème X ?» comme si nous étions la société à nous tout seuls, agissant de notre propre chef. En réalité, à moins de faire partie de cette catégorie de population, 3 à 5 % tout au plus, dont les positions ont une réelle influence sur les décideurs, ce n'est qu'un faux semblant. Nous nous identifions avec nos dirigeants, mais c'est nous qui sommes dirigés. C'est comme quand nous sommes assis devant notre petit écran et que nous entendons un homme politique demander « Que devons-nous faire pour les moins bien lotis ?» sachant que nous nous rangerions certainement nous-mêmes dans cette catégorie en compagnie de la moitié au moins des téléspectateurs. Ces jeux me paraissent extrêmement pernicieux, car en ce qui me concerne, j'aimerais autant qu'il n'y ait pas d'élite politique du tout. Je suis anarchiste, ce qui veut dire que j'attends avec impatience le jour où les gouvernements, les entreprises et tout le reste nous apparaîtront comme des curiosités historiques, au même titre que l'Inquisition espagnole ou les conquêtes mongoles. Cela veut dire aussi que, pour régler les problèmes du moment, ma préférence va toujours aux solutions qui laissent au peuple la possibilité de gérer ses propres affaires, au lieu de donner plus de pouvoir aux politiques ou aux industriels. Voilà pourquoi, face à un problème social, mon réflexe est moins de m'imaginer au pouvoir et de réfléchir au type de solution que j'imposerai d'en haut que de chercher quels sont les mouvements existants qui s'occupent de ce problème et créent leurs propres solutions. Or, à cet égard, la question des jobs à la con est particulièrement délicate. En effet, il n'y a pas de mouvement anti-job à la con. Pour commencer, leur prolifération ne constitue pas un problème aux yeux de la majorité des gens. Mais même si c'était le cas, la difficulté demeurerait. Comment organiser un mouvement consacré à ce problème ? Quelles initiatives pourrait-il proposer au niveau local ? On peut concevoir que des syndicats ou d'autres associations de travailleurs lancent des actions de protestation contre les tâches à la con sur des lieux de travail précis, ou même à l'échelle d'un secteur d'activité. Mais tout porte à croire que leur mot d'ordre serait alors la débullshitisation du travail réel, certainement pas le licenciement des salariés superflus. Quant à une campagne plus vaste contre les jobs à la con, on ne sait pas très bien à quoi elle pourrait ressembler. Raccourcir la semaine de travail en faisant le pari que les choses s'arrangeront mécaniquement? Cet espoir paraît vain. Même en supposant qu'on parvienne à instaurer la semaine de 15 heures, il est fort peu probable que cela se traduise spontanément par l'abandon des jobs et des branches qui ne servent à rien. Et si l'on décide de créer une nouvelle bureaucratie d'État chargée d'évaluer l'utilité de chaque emploi, elle se transformera inévitablement en une immense usine à gaz, elle-même génératrice de jobs à la con. Des programmes d'emploi garantis par l'État conduiraient au même résultat. En définitive, parmi les solutions actuellement défendues par les mouvements sociaux et qui permettraient de réduire le gouvernement au lieu de le rendre encore plus omnipotent et plus intrusif, je n'en ai trouvé qu'une seule, le revenu universel de base. Le tout dernier témoignage cité dans cet ouvrage prendra la forme d'une conversation croisée avec mon amie militante Leslie et l'une de ses camarades de lutte, Candy. Leslie travaille comme conseillère en prestations sociales au Royaume-Uni et elle s'est assignée une mission politique, faire en sorte que son job à la con devienne totalement inutile. Elle est employée par une association indépendante qui se propose d'accompagner les citoyens dans l'inextricable parcours du combattant imaginé par les gouvernements successifs pour compliquer autant que possible l'accès des chômeurs ou des personnes en difficulté aux aides auxquelles ils ont prétendument droit. Voici ce que m'a écrit Leslie. Leslie. Le boulot que je fais ne devrait pas exister. Malheureusement, il est rendu nécessaire par tout le chapelet de jobs à la con créé pour empêcher les gens qui ont besoin d'argent de le toucher. Comme si la démarche d'aller demander des allocations, quelle qu'elle soit, n'était pas déjà suffisamment kafkaïenne, intrusive et humiliante. Il faut en plus qu'ils inventent une procédure super compliquée. Du coup, la plupart des personnes éligibles ont besoin d'aide, ne serait-ce que pour piger les questions posées et comprendre quels sont leurs droits. Ces aberrations auxquelles on aboutit quand on tente de transposer en langage informatique des actions qui relèvent de la prise en charge de l'humain, et a fortiori quand les ordinateurs sont spécifiquement programmés pour limiter au maximum cette prise en charge, Leslie les connaît bien. Cela fait des années qu'elle doit se colter avec elle. Elle se retrouve dans une position assez semblable à celle de Tania, qui, au chapitre 2, nous racontait comment elle passait des heures à réécrire les CV des candidats intéressants en leur indiquant les mots clés à y faire figurer pour éviter d'être rejetés par l'ordinateur. Leslie. Aujourd'hui, il y a tout un lexique particulier pour les dossiers de demande. J'appelle ça un catéchisme, un ensemble de mots précis à utiliser sous peine de se faire blackbouler. Les seules personnes à les connaître sont celles qui, comme moi, ont reçu une formation et ont les manuels sous la main. D'ailleurs, ce n'est même pas suffisant pour franchir les barrières. Dans le cas des pensions d'invalidité, par exemple, beaucoup de demandeurs doivent se battre jusqu'au tribunal pour voir reconnaître leurs droits. C'est vrai que j'ai un petit frisson chaque fois qu'on obtient gain de cause dans un dossier. Mais ce n'est rien à côté de la colère que j'éprouve quand je me rends compte du colossal gaspillage de temps que cela représente pour tout le monde. Le requérant, moi-même, les gens du DWP, Department for Work and Pensions, qui traitent la demande, les juges des tribunaux, les experts appointés par les deux parties. Franchement, est-ce qu'on n'aurait pas tous mieux à faire, quelque chose de plus constructif, je sais pas moi, installer des panneaux solaires ou cultiver son jardin? Souvent aussi, je pense à ceux qui ont pondu toutes ces règles. Combien ont-ils été payés pour le faire? Combien de temps ça leur a pris? Combien de personnes mobilisées? Eux étaient sans doute convaincus d'œuvrer pour une bonne cause en garantissant que les allocations n'iraient pas à des personnes qui n'y ont pas droit. Des fois, je m'imagine que des extraterrestres débarquent sur la Terre et se tapent une grosse barre de rire en voyant les humains fabriquer des lois qui visent à priver leurs semblables de simples jetons. Des jetons symboliques, d'un concept de leur propre invention. L'argent, et qui donc, par définition, existe en abondance. Naturellement, parce qu'elle est quelqu'un de généreux qui cherche à faire le bien, Leslie ne doit compter que sur un salaire très modeste. Quant à l'argent nécessaire au fonctionnement de son service, il lui faut l'obtenir en s'efforçant de satisfaire une ribambelle de gratte-papier arrogant. Leslie. Cerise sur le gâteau, nos financements proviennent de fondations caritatives, ce qui implique un autre cortège de jobs à la con, commençant par ma pomme, chargé de constituer les dossiers de demande, et allant jusqu'au directeur de ces organisations qui clame haut et fort qu'il lutte contre la pauvreté et crée un monde meilleur. En ce qui me concerne, cela signifie d'abord des heures passées à identifier les sources de financement appropriées, à examiner les conditions d'éligibilité, à tenter de trouver la meilleure façon d'approcher ces institutions, à brasser de la paperasse, à donner des coups de fil. Ensuite, si ça marche, je devrais tous les mois compiler des chiffres et remplir des formulaires de suivi. Chaque fondation a ses propres principes, ses propres statistiques, réclame sa propre liste de preuves que nous responsabilisons les bénéficiaires, que nous sommes des acteurs de changement et d'innovation, bla bla bla. Alors que notre boulot se résume à jongler avec des réglementations et des éléments de langage pour aider les gens à remplir leurs dossiers et leur permettre simplement de vivre leur vie. Comme me l'a appris Leslie, des études ont montré que, dans tout système d'allocation reposant sur des conditions de ressources, quelle que soit sa forme, au moins 20% des personnes qui seraient éligibles renoncent à déposer une demande. Il ne fait guère de doute que ce pourcentage est supérieur, et de loin, à celui des fraudes que ces innombrables réglementations sont censées détecter. En effet, même en comptant les personnes qui se trompent en toute bonne foi, les déclarations frauduleuses ne représentent que 1,6% du total. À noter que le chiffre de 20% reste valable, même si l'on se place dans l'hypothèse d'un système où tous les dossiers seraient acceptés. Une hypothèse purement fictive, évidemment. En réalité, les normes sont destinées à maximiser le nombre de refus, ou en tout cas à l'accroître autant qu'il paraîtra raisonnable de le faire. C'est ainsi que, aujourd'hui, au Royaume-Uni, entre les sanctions et l'application tatillonne des règles, 60% des personnes qui auraient droit à des indemnités de chômage n'en bénéficient pas. Pour le dire autrement, tous les maillons de la longue chaîne décrite par Leslie, les bureaucrates qui rédigent les lois, les tribunaux qui les font respecter, le DWP, les militants qui assistent les demandeurs, les salariés des organismes subventionnant les associations qui emploient ces militants, font partie d'un seul et même gigantesque appareil dont la mission est d'entretenir cette fable familière. Les gens sont des feignants qui, s'ils avaient le choix, n'en ficheraient pas une rame. Et son corollaire, même si elle a le devoir de leur procurer un minimum de ressources pour leur éviter de mourir de faim, la société doit s'appliquer à rendre le processus aussi incompréhensible, chronophage et humiliant que possible. Au fond, le job de Leslie est une sorte d'hybride monstrueux. Mi-cocheuse de cases, mi-rafistoleuse, elle est là pour corriger les dysfonctionnements d'un système d'assistance qui a été délibérément conçu pour ne pas fonctionner. Des milliers de personnes travaillent ainsi dans de beaux bureaux climatisés et reçoivent de confortables salaires pour s'assurer que les pauvres continuent de vivre dans la honte. Leslie est mieux placée que quiconque pour s'en rendre compte, car elle-même, en tant que mère célibataire, a touché des allocations pendant plusieurs années. Elle sait parfaitement à quoi ça ressemble d'être de l'autre côté. La solution qu'elle préconise est simple: mettre à bas tout le système. C'est pour cela qu'elle milite en faveur du revenu universel de base, une mesure qui consisterait à remplacer l'ensemble des prestations sociales soumises à conditions de ressources par une somme fixe versée à tous les résidents du pays, sans distinction. Candy est une de ses camarades de lutte. Elle aussi a occupé un job absurde au cœur même du système, mais elle n'a pas voulu m'en dire plus. Son intérêt pour toutes ces questions remonte aux années 1980, lorsque, fraîchement installée à Londres, elle s'est engagée dans le mouvement international pour un salaire au travail ménager. Candy. J'ai commencé à défendre le salaire au travail ménager parce que je me suis aperçu que c'était ce dont ma mère aurait eu besoin. Elle était coincée dans un mariage raté et elle aurait quitté mon père bien plus tôt si elle avait eu de l'argent à elle. Pour toutes les personnes prisonnières d'une relation violente ou simplement ennuyeuse, c'est fondamental de pouvoir s'en libérer sans connaître de difficultés financières. Avant de déménager à Londres, J'avais participé à divers mouvements féministes aux États-Unis. L'un de mes souvenirs fondateurs, c'est le jour où ma mère m'a emmené avec elle dans ce qu'on appelait un groupe d'éveil des consciences, dans l'Ohio. J'avais 9 ans. Toutes ensemble, on a arraché les pages du Nouveau Testament dans lesquelles saint Paul décrit les femmes comme de terribles créatures, et on en a fait un tas. Comme j'étais la plus jeune, on m'a demandé d'y mettre le feu. Je me souviens que je n'osais pas, parce qu'on m'avait appris qu'il ne fallait pas jouer avec les allumettes.
David, finalement, tu l'as fait ?
Candy, oui. Ma mère m'a dit que j'avais le droit, et je l'ai fait. Peu de temps après, elle a trouvé un job décemment payé, et immédiatement, elle a quitté mon père. Pour moi, ce fut en quelque sorte la preuve ultime. C'était bien l'argent qui l'en avait empêché jusque-là. Au moment où Candy est arrivée en Grande-Bretagne, le mouvement pour un salaire au travail ménager était considéré par la plupart des féministes comme un groupe marginal, un peu gênant, voire franchement dangereux. Pour elle, au contraire, il offrait une alternative au débat stérile entre progressistes et radicales parce qu'il proposait une vraie analyse économique des problèmes que rencontraient les femmes. C'était l'époque où l'on commençait à entendre parler de la machine à travailler mondiale, le système planétaire du salariat conçu pour mettre au turbin un nombre croissant d'individus en leur demandant de plus en plus d'efforts. Les critiques féministes, elles, dénonçaient le fait que ce système prétende définir ce que l'on devait considérer comme du vrai travail. En gros, tout ce qui pouvait être traduit en termes de temps, donc acheté et vendu. L'essentiel du travail accompli par les femmes n'entrait pas dans cette catégorie, alors même que, comme elle le soulignait, en son absence, la machine qui lui refusait le label de « vrai travail » s'enrayerait sur le champ. Les actions de ce mouvement visaient avant tout à dénoncer le coup de bluff du capitalisme. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on exécute un travail, y compris quand on bosse en usine. Mais si vous tenez à dire que le travail n'a de valeur qu'en tant que marchandise, au moins, soyez cohérent. Rémunérer les femmes à la même hauteur que les hommes reviendrait instantanément à placer entre leurs mains une part phénoménale de la richesse mondiale. Or, tout le monde sait que la richesse, c'est le pouvoir. J'ai poursuivi ma discussion avec Candy et Leslie.
David,
est-ce que, au sein du mouvement pour le salaire au travail ménager, il était beaucoup question des implications politiques, je veux dire, des mécanismes concrets qui permettraient de verser ce salaire ?
Candy,
non, c'était bien plus une perspective générale. Il s'agissait de braquer les projecteurs sur tout ce travail non rémunéré dont personne n'était censé parler. De ce point de vue, ça a vraiment été un succès. Alors que le problème était totalement absent des débats dans les années 1960, il est devenu un sujet de discussion majeur dans les années 1970. Et aujourd'hui, on considère qu'il est normal de prendre en compte cet aspect quand on établit une convention de divorce, par exemple.
David,
donc, la revendication d'un salaire, c'était surtout une provocation ?
Candy,
bien plus en tout cas qu'un véritable plan de bataille du genre « voilà comment on va faire concrètement ». Cela dit, on a évoqué la question de savoir d'où viendrait l'argent. Au début, l'idée était de le prélever sur le capital. Et puis, dans les années 1980, Wilmette Brown a publié son livre « Black Women and the Peace Movement ». Elle y montrait comment la guerre et l'économie qui la soutient affectent profondément les femmes, en particulier les femmes noires. Alors le slogan est devenu « Donnez l'argent aux femmes, pas aux soldats ». D'ailleurs, on l'entend encore sous la forme « Payons ceux qui soignent, pas ceux qui tuent ». À part ça, on n'a jamais réfléchi aux mécanismes en détail.
David,
attendez. Payons ceux qui soignent, pas ceux qui tuent.
C'est le slogan de qui ?
Leslie, de la grève internationale des femmes. C'est le mouvement qui a pris la suite du salaire au travail ménager. En 2013, on a publié le premier plaidoyer en faveur du revenu universel de base, RUB, européen. 2 mois plus tard, la grève internationale des femmes a réagi en diffusant une pétition qui demandait plutôt un salaire pour les aidants. Personnellement, cette idée ne me pose pas de problème, à condition de reconnaître que nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, des aidants. Ceux qui ne veillent pas sur quelqu'un d'autre veillent au moins sur eux-mêmes. Or, cela demande un temps et une énergie que le système n'est plus disposé à nous accorder. Du coup, admettre cela revenait à plaider pour un RUB. Puisque nous sommes tous des aidants, versons une somme à chacun et laissons-le décider lui-même de qui il souhaite prendre soin quand il l'entend.